Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est sans doute leur dernière chance de faire du bruit. Les syndicats de nouveau dans la rue aujourd'hui, 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Comme un barreau d'honneur alors que la proposition de loi du groupe Liotte qui veut abroger le recul de l'âge de la retraite à 64 ans et qui doit être examinée jeudi, a de grandes chances de rester sur le carreau. La présidente de l'Assemblée nationale devrait en effet la déclarer inconstitutionnelle. Bonjour Barthélémy Philippe.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Alors pour les opposants à la réforme des retraites, balayer cette proposition de loi, c'est provoquer à nouveau. Les syndicats cherchent déjà la riposte.
Oui, on ne va pas rester les bras ballants, promet un leader syndical. À chaud, les organisations de salariés devraient communiquer pour dénoncer un refus de vote qu'elles jugent inacceptable. Puis il faudra prendre le temps d'échafauder une stratégie de riposte. François Omril, président de la CFE-CGC.
L'intersyndicale devra répondre à la mesure de l'agression démocratique. Tant qu'il n'y aura pas eu de vote, on considérera que cette loi est illégitime. On continuera à faire la guérilla au gouvernement pour que cette loi ne s'applique pas, parce qu'elle n'aura aucune légitimité.
Et cette guérilla, eh bien, elle pourrait se jouer sur le terrain judiciaire et plus précisément devant le Conseil d'État. Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT.
L'idée, c'est véritablement d'empêcher par tous les moyens l'application de cette réforme. Et à chaque fois qu'on aura la possibilité d'attaquer un décret d'application, on le fera. Donc on mettra en place une veille juridique pour faire ce travail-là.
En revanche, les leaders syndicaux refusent d'appeler à voter une motion de censure contre le gouvernement. On est là pour défendre les travailleurs, pas pour renverser le gouvernement, rappelle l'un d'entre eux.
Merci Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites aura un impact limité dans les transports. 9 trains SNCF sur 10 circulent. Trafic normal à la RATP, seul l'aérien est touché. Un tiers des vols annulés à Orly. 1 sur 5 à Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux et Nantes.
Alors côté ordre public, les services de renseignement territoriaux pronostiquent entre 400 et 600 000 manifestants, pas moins de 250 actions également.
Et oui, et 11 000 policiers et gendarmes mobilisés pour les encadrer et prévenir tout débordement de l'ultra-gauche ou des gilets jaunes. Et pour ça, ils pourront s'appuyer sur des drones qui survoleront les cortèges. Alors dans quelles conditions? Que peut ou ne peut pas faire la police avec ces drones? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, William Molinier.
Le cadre d'emploi des drones par les forces de l'ordre est très encadré. Il est détaillé dans un document interne de 28 pages qu'Europe 1 s'est procuré. La durée de conservation des images est de 7 jours maximum, sauf si une procédure administrative ou judiciaire est ouverte entre-temps. Et lorsque l'intérieur des domiciles ou leur entrée est filmé pour des besoins opérationnels, ce délai est ramené à 48 heures. Systématiquement, le pilote de drone fait un rapport détaillé et circonstancié à sa hiérarchie. Il doit avoir suivi une formation initiale, théorique et pratique, puis être à jour d'au moins 20 heures de vol chaque année. La captation du son est interdite et les vidéos enregistrées ne peuvent pas être recoupées avec un logiciel de reconnaissance faciale. Le télépilote est le seul apte à décider à tout moment d'interrompre le vol ou de le poursuivre en fonction des conditions aéronautiques.
William Molinier.
Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les matins dans le journal de 8h. Emmanuel Macron, lui, continue sa tournée mémorielle en Normandie après le Mont-Saint-Michel. Hier, le chef de l'État célèbre aujourd'hui l'anniversaire du débarquement des Alliés.
Oui, c'était le 6 juin 1944, il y a 79 ans, un D-Day auquel a participé Léon Gauthier. C'est le dernier Français encore en vie, il a 100 ans, et il remettra aujourd'hui, aux côtés d'Emmanuel Macron, des bérets verts aux élèves de l'école des fusiliers marins. Cérémonie également au cimetière américain qui surplombe Omaha Beach, où de nombreux descendants de soldats viennent se recueillir depuis plusieurs jours. Reportage Caroline Baudry.
La mer est déchaînée, le vent puissant, le soleil assommant. Andrea arrive de Caroline du Sud. Impossible pour elle de retenir ses larmes face aux 9389 croix blanches. Ce champ de tombes des soldats morts au combat.
Mon père était là dans ce débarquement. C'est important de venir ici pour comprendre ce qu'il a traversé et ce qu'il a dû voir ce jour-là.
Derrière elle, Stéphanie du Mississippi se recueille.
Comme on dit aux États-Unis, la liberté n'est pas gratuite. Ces hommes ont payé de leur sang pour que je puisse voyager et vivre en liberté. Ce lieu permet de rappeler cela pour que l'histoire ne se répète pas.
Cette mère de famille a tenu à offrir le voyage à ses enfants. Nate, 19 ans, immortalise en photo les colonnades du mémorial, celui qu'il a vu et revu dans ses livres d'histoire.
Et le voir en personne est juste une expérience absolument surréaliste. L'impact que ça a eu, que des enfants comme moi fassent sacrifice.
À côté se dresse une statue de 7 mètres de haut, un homme qui tend les bras vers le ciel, le symbole, je cite, de l'esprit de la jeunesse américaine s'élevant des flots. Colville-sur-Mer, Caroline Baudry, Europe 1.
Caroline Baudry, donc une fillette de 6 ans placée en coma artificiel à Paris après une noyade à la piscine.
Oui, lors d'un cours de natation avec sa classe, encadrée par 9 éducateurs et enseignants, une trentaine d'élèves de CP ont été témoins de l'accident et de la réanimation. L'école située dans le 19e arrondissement de la capitale a mis en place une cellule psychologique.
En Ukraine, Volodymyr Zelensky convoque ce matin un conseil de sécurité exceptionnel après l'explosion d'un barrage hydroélectrique dans le sud du pays cette nuit.
Oui, dans la ville occupée de Novakharkov, le gouvernement ukrainien dénonce le terrorisme russe, alors que Moscou, de son côté, nie tout effondrement de la structure. Le ministère ukrainien de l'Intérieur a demandé à 10 villages de la rive droite du fleuve Dniepr et certains quartiers de la ville de Kherson de rassembler leurs affaires en prévision d'inondations.
Oui, les Russes ne pourront pas arrêter l'Ukraine avec de l'eau, des missiles ou quoi que ce soit d'autre, dit le président ukrainien ce matin.
Volodymyr Zelensky qui revendique des gains de territoire près de Bakhmout. Des actions discrètes mais efficaces, Nicolas Tonev.
Oui, avec des centaines de mètres gagnés sur la périphérie de la ville, d'après les services de Kiev, l'armée ukrainienne y occupe toujours des positions hautes, ce qui facilite évidemment les actions offensives et les bombardements des troupes russes qui tiennent la localité. Yevgeny Prigojine lui-même reconnaît la perte de territoire qui venait à peine d'être conquis, une honte selon lui. Pour Kiev, remettre la pression sur Bakhmout, c'est remettre la pression sur des troupes russes fatiguées devant défendre ces zones conquises après des mois d'assaut et qui sont devenues symboliques. Hors de question donc pour Moscou d'affaiblir la défense de la cité au risque de la perdre. Les généraux de Volodymyr Zelensky créent donc un dilemme majeur à l'état-major russe. Faut-il renforcer le sud attaqué près de Zaporizhia? La Russie doit-elle songer à amener des renforts pour repousser les assaillants en territoire russe dans la région de Belgorod aux dépens d'autres fronts? Faut-il répondre aux tests ukrainiens sur les localités voisines de Bakhmout? L'incertitude règne. L'armée russe diffuse des images de victoire dans la région de Donetsk, mais elles ne sont qu'aériennes et elles racontent donc surtout l'incertitude tactique créée par Kiev sur les fronts et les points de contact entre les deux armées.
Nicolas Tonev, spécialiste européen de l'Ukraine.
La guerre en Ukraine qui s'invite aussi à Roland-Garros.
Oui, pas de poignée de main entre les joueuses de Kiev et de Moscou ou de Minsk. Depuis le début du tournoi, les matchs de l'Ukrainienne Elina Svitolina se terminent systématiquement dans l'indifférence ou à bonne distance de son adversaire. Une joueuse engagée qui a su séduire le public parisien, Martin Lange.
Merci Elina.
Oui, c'est une véritable histoire d'amour entre le public parisien et Elina Svitolina, la plus française des Ukrainiennes puisqu'elle est mariée à Gaël, mon fils. Ils ont d'ailleurs une petite fille ensemble, Sky, une naissance qui a obligé Svitolina à mettre sa carrière entre parenthèses. Mais 7 mois plus tard, elle est déjà en quart de finale d'un grand chelem. Impressionnante de persévérance, Svitolina est aussi devenue un symbole de la résistance ukrainienne. Elle refuse systématiquement de serrer la main de ses adversaires russes et biélorusses, comme la numéro 2 mondiale Sabalenka qui l'attend aujourd'hui. Une pression supplémentaire, pas pour Svitolina.
J'ai déjà joué contre deux Russes, ça ne va pas changer, j'ai l'habitude maintenant. Et donc, ce sera la même chose.
À l'inverse, son adversaire vit nettement moins bien la situation. Interrogée à plusieurs reprises depuis le début de la quinzaine sur sa position concernant le conflit ukrainien, Sabalenka a depuis décidé de sécher les conférences de presse pour préserver sa santé mentale.
Martin Lange.
Roland Garros, l'événement tennis est sur Europe 1.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, début des quarts de finale aujourd'hui. Programme alléchant, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic face au Russe Karen Khachanov. Match à suivre évidemment en fil rouge sur Europe 1 et à 8h30, ne manquez pas le journal de Roland-Garros.
Ah bah
avec
oui, les
Axel May.
Tout à fait, les enjeux de, ces rencontres, les meilleurs moments de la journée d'hier, ce sera donc, comme vous l'avez dit, à 8h30 avec l'ami Axel May. Merci beaucoup.
Merci
Fanny
vous.
Marceau, c'était votre journal.
Et juste après le journal de Roland-Garros avec Axel May, ne manquez pas les signatures d'Europe 1 Matin.
Emmanuel Ducrot qui va nous parler du marché du café. Gaspard Proust sera là également. Tout ça après l'invité de Sonia Mabrouk, le secrétaire général de la CFDT. Dans le studio d'Europe 1 dans un instant, Laurent Berger, 8h10.